Le podcast Charles et de Gaulle vous est proposé par le Musée de l'Armée aux Invalides à l'occasion de son exposition « Comme en 40 ». Drôle de guerre, campagne de France, appel du 18 juin, mise en place du gouvernement de Vichy, avec l'exposition « Comme en 40 » au Musée de l'Armée, revivez ces moments clés, plongez dans l'atmosphère de cette année terrible et demandez-vous, à la place de ces hommes et de ces femmes, qu'auriez-vous fait cette année-là ? « Comme en 40 », une exposition à découvrir du 17 septembre 2020 au 10 janvier 2021 au Musée de l'Armée à Paris. Plus d'infos sur musée-armée.fr et dans les notes de cet épisode.
Ils se tiennent côte à côte, émergeant de la brume. L'anglais ramassé dans son caban, sa canne à la main. Le français élancé dans son costume de général, aérien, comme si ses pieds ne touchaient plus terre. Derrière Winston Churchill et Charles de Gaulle se découpe la silhouette massive de l'Arc de Triomphe. En ce 11 novembre 44, à Paris, on ne fête pas seulement l'armistice de 1918. Après 4 années d'occupation, les Français peuvent enfin défiler sous des drapeaux bleu-blanc-rouge. C'en est fini de Vichy et de ses collabos qui avaient interdit des célébrations patriotiques. À Paris, ce jour-là, la foule s'est massée le long de l'avenue des Champs-Élysées. La capitale reprend vie. 3 mois plus tôt, dans ces mêmes rues, sur ces mêmes pavés, les résistants luttaient pour déloger les Allemands. Ils avaient dressé des barricades, tendu des embuscades, harcelé l'occupant. Leur courage avait forcé les troupes alliées, qui comptaient contourner Paris pour s'enfoncer en Europe, à modifier leur plan pour libérer plutôt la ville. C'était le 25 août 44. Bienvenue dans l'année zéro de la France libérée. Ce jour-là, Churchill et De Gaulle montrent au monde l'image de l'entente parfaite. Pourtant, à peine quelques mois plus tôt, en juin, le vieux lion ordonnait à ses services de mettre au fer cet insupportable français. Voici l'histoire d'un couple mal assorti mais condamné à s'entendre. Voici comment, malgré leurs différences, Churchill et De Gaulle ont libéré le monde du joug nazi.
Le gouvernement de Bordeaux avait choisi la capitulation. La France.
C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Vive la France! Libre!
Parjure et traître à la fois, a trahi sa patrie.
Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude.
Charles et De Gaulle. Ça m'intéresse, histoire, vous raconte comment un homme seul est devenu le héros de la France libre.
Mai 40. Le Royaume-Uni est au bord du gouffre, toujours à la traîne des Allemands qui frappent vite et fort un peu partout en Europe. Quand, en avril, les nazis ont attaqué la Norvège et le Danemark, le Royaume-Uni et la France ont répliqué à la va-vite, envoyant des troupes dans les ports de Narvik et de Trondheim. Mais l'opération, qui visait à couper à Hitler la route du fer, est un échec. Les nazis ne cessent de se renforcer. Au fil du printemps 40, les Britanniques, eux, s'affaiblissent. En France, ça n'est pas mieux. Alors que l'exécutif bascule de plus en plus dans le camp des défaitistes, un homme s'échine à convaincre ses supérieurs de harceler les Allemands. C'est le capitaine De Gaulle. Sa persévérance a été remarquée par les services britanniques. Le 4 avril 40, un rapport qualifie ce De Gaulle de « partisan déterminé de l'attaque ». Ce que les Britanniques ignorent, c'est que ce même De Gaulle suit avec grand intérêt les soubresauts politiques en Grande-Bretagne. Dans un courrier du 8 mai, il écrit à sa femme, Yvonne « On avait compté sur la flotte anglaise qui, au total, n'a pas fait grand-chose parce que les vieux messieurs de Londres ont empêché Churchill de risquer. » Mais qui est donc ce Churchill? Pas tout à fait un débutant, plutôt même une sorte de has-been en politique. En 1915, 25 ans plus tôt, il a bien été premier lord de l'amirauté, l'équivalent du ministre de la Marine. Mais on le tient responsable de l'échec de la campagne des Dardanelles en pleine Grande Guerre, et de la mort de 50 000 marins de la Royal Navy. Winston aura du mal à se remettre de ce revers et cédera pendant des mois à son « mad dog », son chien fou, comme il surnommait sa dépression chronique. Dans l'entre-deux-guerres, il change deux fois de parti, passant des conservateurs aux libéraux et inversement. Une audace folle dans un pays où changer de famille politique signe la fin de votre carrière. À nouveau écarté du pouvoir en 1929, il traverse ce qu'il appelle une « Devil's Decade », une décennie du démon, pendant laquelle il voit monter en Europe le péril nazi. Ennemi acharné d'Hitler dès sa prise de pouvoir en 1933, il ne cesse d'alerter ses concitoyens sur la nécessité de se préparer à la guerre. mais personne n'écoute les fauves fatigués. Guillaume Piketty, professeur d'histoire à Sciences Po, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.
Qui est considéré par un peu tout le monde dans la classe politique britannique pendant les années 30 comme une sorte de Cassandre plus ou moins imbibée d'alcool, et donc pas du tout fiable, qui certes dit des choses, lance des avertissements dans tous les sens, mais n'est plus très crédible. Bon. Et en fait, il faut la guerre, la déclaration de guerre de septembre 1939 et la volonté de Chamberlain d'accumuler le plus possible de soutien pour qu'il rejoigne le gouvernement comme premier lord de l'amirauté en septembre 1939. Et c'est le début de sa seconde vie politique, en quelque sorte.
En mai 40, au moment où De Gaulle s'agace contre les vieux messieurs de Londres qui n'écoutent pas Churchill, le vent a tourné. Le corps expéditionnaire britannique a perdu une très large part de son armement léger et quasiment tout son armement lourd. Les Anglais sont dépourvus de tout sur le plan matériel. Mais bientôt, les espoirs de De Gaulle se réalisent. Palais de Buckingham, 10 mai 40. À 18h, le roi George VI accueille un vieil aristocrate rondouillard. Alors que Winston Churchill s'assied, le souverain lui lance « Je suppose que vous ignorez pourquoi je vous ai fait appeler ?» Churchill répond sur le ton de la blague « Je n'en ai pas la moindre idée. » Dans un sourire, le roi reprend « Je veux vous demander de former le gouvernement. » « Je n'y manquerai pas, » répond Churchill avant de s'effacer. Si l'heure n'était pas si grave, cet échange aurait pu s'apparenter à une vaste plaisanterie. Mais l'ancien monde est en feu. Les Allemands ont lancé leurs troupes sur les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et la France. Et s'ils poussaient jusqu'au Royaume-Uni ? C'est dans ce contexte que Churchill prononce son fameux discours de mobilisation le 13 mai 40 à la Chambre des communes. Un discours resté célèbre pour sa tirade sur la sueur et les larmes.
« I have nothing to offer but blood. » Toil, tears, and sweat.
13 juin 40, les Français sont toujours en guerre, mais Winston Churchill, qui connaît ses voisins, les sait tenter par les sirènes des défaitistes. Il embarque dans son flamingo jaune, escorté de 12 chasseurs Hurricane, direction Tours, où a lieu le Conseil suprême interallié. C'est la cinquième fois que le Prime Minister se rend en France depuis le 10 mai. Au-dessus de Tours, le pilote se rend compte que l'aérodrome a été copieusement bombardé. Il doit se poser entre les cratères qui jalonnent la piste. À la préfecture, Winston rejoint ses alliés. De Gaulle est là aussi. Dans son français hésitant, il tente de dissuader les Français de signer une paix séparée avec l'Allemagne. « Non, lance-t-il, la guerre continuera. Elle ne peut finir que par notre disparition ou notre victoire. » Silence dans la salle. Le Britannique n'a pas lâché son cigare qui pend éteint à ses lèvres. Il cherche du regard un soutien dans cette salle hostile et ne trouve que De Gaulle. Après la conférence, il croise le général français dans un couloir. Dans ses mémoires de guerre, il écrira « Il se tenait près de l'entrée, immobile et flegmatique. Le saluant, je lui dis à mi-voix en français, l'homme du destin. » Cet échange a-t-il réellement eu lieu ? Churchill a-t-il parlé assez fort ? De Gaulle dira plus tard n'avoir jamais entendu ces paroles. Une chose est sûre, Churchill a reconnu en De Gaulle un alter ego. Guillaume Piketty.
Il y a sûrement un effet miroir. Il y a sûrement un effet miroir. Il y a aussi la compréhension très nette de la part de Churchill d'une nécessité absolue. C'est-à-dire que, il faut. Toutes les bonnes volontés doivent être rassemblées, quelles qu'elles soient, aussi faibles soient-elles, aussi peu nombreuses soient-elles.
Après l'appel de Pétain à cesser le combat, le 17 juin 40, tout s'accélère. Churchill prend De Gaulle sous son aile et l'autorise à lancer son appel sur les ondes de la BBC le 18 juin 40. Ça n'a rien d'un acte de générosité. Churchill applique aux Français sa méthode éprouvée, prendre l'opinion à partie, s'adresser directement aux citoyens pour court-circuiter toutes les lourdeurs administratives et politiques. Churchill, le franc-tireur, aime s'adresser aux Britanniques via la BBC ou à la Chambre des communes, dont les débats sont enregistrés et retransmis. Ainsi, dans l'après-midi du 18 juin, quelques heures avant le célèbre appel de De Gaulle, le Premier ministre s'adresse au peuple. Ce discours est resté dans l'histoire sous le nom de « The Finest Hour », l'heure la plus glorieuse. Ce pendant britannique de l'appel de De Gaulle est moins connu en France. C'est un discours puissant, lyrique, prononcé par l'un des meilleurs orateurs de son temps.
Quoi qu'il advienne en France, avec le gouvernement actuel ou avec tout autre gouvernement français, nous tous, sur cette île et dans l'Empire, ne renieront jamais la fraternité qui nous unit au peuple français. Nous ne renonçons à aucune de nos revendications légitimes. Nous ne reculons pas d'un pouce, pas d'un iota. Les Tchèques, les Polonais, les Norvégiens, les Néerlandais ont rejoint notre cause. Tous seront un jour rétablis dans leurs droits. Ce que le général Weygand appelait la bataille de France est terminé. La bataille d'Angleterre va bientôt commencer. De cette bataille dépend la survie de la civilisation chrétienne. De cette bataille dépend notre mode de vie britannique et la longue histoire de nos institutions et de notre empire. Toute la fureur et la puissance de l'ennemi se tournera bientôt contre nous. Hitler sait qu'il devra soit nous briser sur cette île, soit perdre la guerre. Mais si nous échouons, alors le monde entier, incluant les États-Unis, incluant tout ce que nous avons connu et chéri, sombrera dans l'abîme des nouveaux âges obscurs. Préparons-nous à remplir nos devoirs et faisons en sorte que, si l'Empire britannique et le Commonwealth devaient durer un millier d'années, les hommes diront encore « Ceci était leur heure de gloire ».
Ce 18 juin 40, deux chefs de guerre se révèlent de l'autre côté de la Manche. « Il est né pour le grandiose », dit De Gaulle de son hôte britannique dans ses mémoires. « C'est un homme à ma taille », commente en écho le locataire du 10 Downing Street. Pendant la guerre, De Gaulle va prendre plus de 60 fois la parole à la radio, tentant d'instaurer un rapport direct et intime avec ses auditeurs. Comme Churchill, il en appelle à la responsabilité et à l'histoire pour éveiller les consciences. Guillaume Piketty.
Ces deux hommes sont totalement dans l'histoire. Ils ont la conscience du fait que les temps qu'ils vivent, ces mois, ces années de guerre, ne sont rien à l'échelle de la grande histoire. Après, peut-être ajouter un autre point, c'est que De Gaulle et les gens qui le suivent pendant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas au début de la Seconde Guerre mondiale, sont considérés par beaucoup d'autres, en particulier les Français, comme totalement illégitimes. D'où la nécessité d'affirmer cette légitimité de différentes façons. Et l'une de ces méthodes d'affirmation de la légitimité, c'est de s'inscrire à la suite de celles et ceux qui ont fait la France. Et donc il est frappant lorsque l'on écoute, lorsqu'on lit des discours prononcés par le général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également des discours prononcés par des résistants qui venaient à Londres, qui parlaient, qui repartaient plus ou moins, ou pas. De voir à quel point ils se placent à la suite de tous ces Français, ça va être Jeanne d'Arc, ça va être Louis Desclins, ça va être Charles VII.
Bâtir une légitimité, c'est le défi de Charles de Gaulle. En juillet 40, il est terriblement seul à Londres. Sur l'île, il découvre une mobilisation inconnue en France. Dans la campagne, des hommes de tous âges s'entraînent au tir avec de vieux fusils. À certains croisements de route, les Anglais ont disposé des vieilles voitures dont ils ont retiré les pneus. Objectif, ralentir la progression des nazis en cas d'invasion. Pour un Français qui vient de quitter un pays défait et occupé, c'est une sacrée claque. Le « fighting spirit » n'est pas un vain mot. C'est auprès de ces lutteurs que Charles de Gaulle cherche maintenant des soutiens. « Puisque vous êtes seul, lui dit un jour Churchill, je vous reconnaîtrai seul. » Le 28 juin, il accepte de reconnaître officiellement le général de Gaulle comme chef de tous les Français libres, où qu'ils se trouvent. Une idylle de 6 mois débute entre les deux hommes.
Dès la première fois où je pris contact avec lui, j'eus la conviction que la Grande-Bretagne, conduite par un pareil Luther, ne fléchirait certainement pas. L'assurance de son jugement, sa grande culture, la connaissance qu'il avait de la plupart des sujets, des pays, des hommes qui se trouvaient en cause, enfin sa passion pour les problèmes propres à la guerre, s'y déployait à leur aise. Par-dessus tout, il était, de par son caractère, fait pour agir, risquer, jouer le rôle très carrément et sans scrupule. Les incidents rudes et pénibles qui se produisirent à maintes reprises entre nous, en raison des frictions de nos deux caractères, de l'opposition de certains intérêts de nos pays respectifs, des abus que l'Angleterre commit au détriment de la France blessée, ont influé sur mon attitude à l'égard du Premier ministre. mais non point sur mon jugement. Winston Churchill m'a paru, d'un bout à l'autre du drame, comme le grand champion d'une grande entreprise et le grand artiste d'une grande histoire.
Une idylle sans nuages ? Pas tout à fait. En juillet 40, la Royal Navy attaque une escadre de l'armée de Vichy dans le port de Mercel-Kébir, en Algérie. Bilan, près de 1300 morts français et pour Vichy, une formidable opportunité de faire passer De Gaulle pour un félon à la botte de l'Angleterre. La France de Vichy rompt ses relations diplomatiques avec le Royaume-Uni. L'affaire oblige De Gaulle à se justifier.
Il n'est pas un Français qui n'ait appris avec douleur et avec colère que des navires de la flotte française avaient été coulés par nos alliés. Eh bien, je dis sans embâge qu'il vaut mieux qu'ils aient été détruits. J'aime mieux savoir, même le Dunkerque, notre beau, notre cher, notre puissant Dunkerque, échoué devant Mercel-Kébir, que de le voir un jour monté par des Allemands.
Le couple De Gaulle-Churchill tente de faire bonne figure après l'attaque de Mercel-Kébir. Le 14 juillet, un défilé français est organisé à Londres. En vérité, un ersatz de fête nationale avec à peine 300 soldats mal équipés. C'est tout ce que De Gaulle a pu aligner. Churchill met aussi à disposition de la France libre un immeuble entier à Carlton Gardens, à Londres, qui lui sert de QG. Le ministre de l'Information offre au général une émission quotidienne à la BBC, Honneur et Patrie, qui débute le 18 juillet. Partout où il le peut, Churchill fait la pub du général.
Ici Londres, les Français parlent aux Français. Honneur et patrie.
Le général de Gaulle vient de visiter quelque part en Angleterre une importante usine d'armement qui construit notamment des chars d'assaut. Partout où il est passé, le chef des forces françaises libres a été l'objet de la part des ouvriers et aussi de la part de la population de la ville voisine d'un accueil des plus chaleureux, comme les Anglais en réserve à ceux qu'ils ont élus dans leur cœur.
J'ai signé récemment avec le gouvernement britannique un accord très important. En vertu de cet accord, moi, qui suis à présent le chef des Français libres, je m'engage à organiser une force française, terrestre, navale, aérienne, pour mener le combat aux côtés de nos alliés.
Portée par cette formidable publicité, la France libre prospère vite. À la fin du mois de juillet, quelques 7000 hommes l'ont ralliée, dont des officiers de grande valeur comme le capitaine Tissier, le lieutenant-colonel Magrin-Verneret ou le capitaine Koenig. Ils seront les principaux organisateurs des forces françaises libres. Alors que De Gaulle recrute des ingénieurs, des mécaniciens, des militaires, Churchill veut toucher le cœur des Français. Le 21 octobre 1940, il s'adresse directement à eux à la radio. Pour mobiliser, il évoque, dans la langue de Molière, la lente destruction matérielle qui attend la France si ses enfants ne réagissent pas.
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous, dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France.
Il fait vibrer la corde sensible tricolore, il parle de l'Alsace-Lorraine que l'on va perdre à nouveau, il compare le territoire français à une poularde qui s'apprête à être découpée par Hitler et Mussolini.
Tous deux veulent découper la France et son empire comme une poularde. L'un veut la cuisse, l'autre l'aile, ou peut-être une partie du blanc. Non seulement l'empire français sera dévoré par ces deux vilains messieurs, mais l'Alsace-Lorraine va une fois encore repasser sous le joug allemand. Et Nice, la Savoie et la Corse de Napoléon, seront arrachées du beau domaine de la France.
Mais le temps des belles déclarations passe vite. Entre De Gaulle et Churchill, l'amour n'aura duré que 6 mois. Le 1er janvier 1941, De Gaulle apprend que les autorités britanniques ont arrêté le vice-amiral Muselier, chef des forces navales de la France libre. L'Intelligence Service est en possession de documents qui prouvent que Muselier a fourni des informations secrètes à Vichy. Churchill veut le faire pendre sur le champ. Le général De Gaulle s'insurge. Une enquête est ouverte et le 5 janvier, la preuve est donnée que les fameux documents aux mains des services anglais étaient falsifiés. Muselier est libéré, mais le mal est fait. De Gaulle n'a plus aucune confiance envers les Britanniques. Il donne l'ordre de congédier sans préavis tous les sujets britanniques travaillant pour la France libre, y compris les femmes de ménage. Guillaume Piketty.
De Gaulle est méfiant vis-à-vis des Anglais, oui, évidemment, parce que De Gaulle est un homme extrêmement lucide et qui connaît effectivement son histoire et qui sait que les Britanniques, quasiment de tout temps, ont taillé des croupières aux Français dès qu'ils l'ont pu. Et qui sait également que lors de la grande expansion impériale de la fin du 19e et du début du 20e siècle, cette rivalité s'est à nouveau exacerbée, que pour différentes raisons géopolitiques, les deux empires n'en sont pas venus aux mains, mais néanmoins, voilà, il y a eu une compétition très très forte. Et donc il a une conscience aiguë du fait que les Britanniques pourraient être tentés de profiter de l'affaiblissement terrible de la France pour régler quelques problèmes qui demeuraient pendants, notamment en se servant dans l'Empire français.
La fureur de De Gaulle est à son comble quand il s'aperçoit que les Britanniques ne font pas respecter le blocus sur les territoires français du Levant, c'est-à-dire la Syrie et le Liban, toujours administrés par Vichy. Les marchandises venues de France y arrivent sans encombre, tandis qu'en sens inverse, la laine et le coton, très utiles pour fabriquer des parachutes, sont tranquillement transportés vers la France collaborationniste avant d'être réexpédiés vers l'Allemagne. Mais il y a pire. Les Anglais ont signé fin avril un traité commercial avec le général Dens à la tête des troupes de Vichy en Syrie, comme si on était entre honnêtes gentlemen. Depuis Brazzaville, où il commande les forces françaises libres, De Gaulle enrage. Il ordonne de chasser tous les Anglais, quelques dizaines, qui se trouvent engagés dans les troupes résistantes. Et puis, l'orage passe. Churchill et De Gaulle se rabibochent in extremis, juste avant le 8 juin 1941 et le lancement de la campagne de Syrie. Malgré leur infériorité numérique, les franco-britanniques font tomber Damas le 21 juin. Mais la suite est une succession d'erreurs politiques et de malentendus. D'abord, le Foreign Office prévoit de négocier l'armistice directement avec Vichy, sans mentionner la participation des Français libres. De Gaulle est hors de lui et il le fait savoir à Spears, l'officier de liaison britannique. Je crois que je ne pourrai jamais m'entendre avec les Anglais. Vous êtes tous les mêmes, uniquement attachés à vos propres intérêts, sans égard pour les besoins des autres. Vous croyez que je souhaite la victoire de l'Angleterre ? Eh bien non, seule m'importe la victoire de la France. Entre les deux chefs alliés, c'est la guerre. De Gaulle multiplie les provocations publiques, comme cette interview donnée au Chicago Daily News à la fin du mois d'août 1941. En fait, l'Angleterre a conclu avec Hitler une sorte de marché pour la durée de la guerre dans lequel Vichy sert d'intermédiaire. N'oubliez pas que Vichy sert l'Angleterre en refusant de livrer la flotte française aux Allemands. En privé, le Français multiplie les tirades anglophobes, tirades qui sont consciencieusement rapportées aux agents de Sa Majesté. De Gaulle a-t-il perdu la tête ? Voilà ce que pensent les Britanniques de ce Français têtu, insupportable, arrogant. Guillaume Piketty.
Arrogant ? Oui, beaucoup, De Gaulle. Mais comme il l'a très régulièrement expliqué pendant la Seconde Guerre mondiale, il était tellement petit, et ce qu'il représentait était en pratique tellement petit, même s'il pensait incarner la France, beaucoup plus important, qu'il a dû être arrogant, insupportable. Il a eu cette phrase que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, en disant qu'à force de défoncer les portes pour sortir, ou de claquer les portes et de les abîmer en sortant de réunions qu'il quittait à fracas, il allait falloir qu'il rentre par les fenêtres, si vous voulez voir. Donc, et cette attitude lui était dictée par sa position et celle de la France.
Le 30 août 1941, Churchill donne les directives suivantes. 1. Personne ne doit aller voir le général de Gaulle. Et 2. aucune autorité britannique ne doit entrer en rapport avec lui lorsqu'il arrivera. Il finit par convoquer De Gaulle au 10 Downing Street le 12 septembre. Ce jour-là, la confrontation est ubuesque. Churchill est d'une humeur massacrante. Il a exigé de son secrétaire, Sir John Colville, qu'il traduise les échanges. Hors de question de parler en français à ce Gaulois mal luné. Le général arrive à la résidence du Premier ministre à 3 heures de l'après-midi. Churchill prend la parole et Colville commence à traduire. Mais Churchill trépigne. Non, ça ne va pas du tout. La traduction est trop mauvaise, on trahit sa pensée. De Gaulle répond en français, et quand Colville traduit, le général proteste « Ça n'est pas du tout le sens de ce que je disais ». On congédie Colville, qui appelle un autre traducteur à la rescousse. Au bout de quelques minutes, il ressort, rouge de confusion, affirmant qu'il pense avoir affaire à deux fous. On referme la porte et on laisse les deux fauves s'expliquer sans traducteur. Une heure passe. Le secrétaire Colville commence à redouter qu'un acte de violence ait été commis. Je finis par décider qu'il était de mon devoir de faire irruption dans le bureau, peut-être sous prétexte d'apporter un message, car je craignais que l'irréparable n'eût été commis. Peut-être s'était-il étranglé ? Je les trouvais tous les deux assis, et la plus grande amabilité se lisait sur leur visage. De Gaulle était en train de fumer l'un des cigares du Premier ministre. Ils se parlaient en français, un des plaisirs auxquels Churchill était incapable de résister.
« Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. »
Cette rencontre aux accents tragicomiques illustre la métamorphose de De Gaulle. Il n'est plus cet homme jeune en qui Churchill fondait tous ses espoirs 18 mois plus tôt. Il apprend le métier d'homme politique et de diplomate, soufflant le chaud et le froid, et ne prenant plus ses alliés pour des amis. En cette fin 41, la France libre s'étoffe. De Gaulle reçoit à Londres un certain Jean Moulin, ancien préfet, qui a rejoint l'Angleterre en passant par le Portugal. Impressionné par son intelligence, De Gaulle le renvoie en France pour rallier et unir les mouvements de résistance. Jean Moulin est parachuté sur les Alpilles avec de l'argent et des moyens de transmission le 2 janvier 42 à 3h30 du matin. La voilà, la France résistante.
Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.
Cette France en quête de son indépendance, on la trouve aussi à Londres. Fin 42, Anna Marly est cantinière au sein des forces françaises libres. C'est une femme en exil perpétuel. Enfant, elle a fui la révolution russe pour se réfugier en France. 20 ans plus tard, en 40, elle fuit en Espagne, puis au Portugal, avant d'atterrir à Londres au milieu d'autres résistants exilés, comme Henri Freinet, Maurice Druon ou Joseph Kessel. Avec sa guitare qu'elle ne quitte jamais, elle va composer la bande-son des Maquisards et des Rebelles. Le chant des partisans, c'est elle. La mélodie, sifflée pour passer le brouillage des ondes, sera reprise comme indicatif musical de l'émission de la BBC Honneur et Patrie. En cette fin 42 où est composé le chant des partisans, la cote de De Gaulle auprès des Français combattants est à son maximum. De plus en plus indépendant, le général agace le président Roosevelt, dont le pays est engagé dans la guerre depuis un an. Churchill ne le supporte plus. C'est un obstacle, un ennemi de l'Angleterre, un idiot. À l'issue d'une longue tirade vengeresse de Churchill, le diplomate Harold Nicholson rétorque. Monsieur le Premier ministre, vous êtes sûrement dans le vrai, mais tout cela n'a aucune importance puisque le général de Gaulle est un grand homme. Churchill explose. Un grand homme, il est arrogant, il est égoïste, il se considère comme le centre de l'univers, il est... Vous avez raison, c'est un grand homme. En novembre 42, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. C'est l'opération Torche, menée par les Anglais et les Américains, qui fait vaciller les forces de l'Axe. Alger tombe en un jour grâce à la résistance française. On assiste à une vague de conversion au gaullisme. Quand les navires français en provenance d'Algérie ou du Maroc font relâche dans les ports anglais ou américains, des centaines de marins désertent pour rejoindre la France combattante. Le 11 novembre 42, Hitler décide d'occuper la zone sud, la partie de la France jusqu'ici restée libre. C'est le moment que choisit De Gaulle pour demander à Jean Moulin de créer un conseil de résistance unifié pour toute la France, embryon du gouvernement qui sera mis en place après la victoire, que de Gaulle juge maintenant inéluctable.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished.
La première réunion du Conseil national de la résistance se tient clandestinement à Paris le 27 mai 1943. Une motion est adoptée qui reconnaît le général de Gaulle comme le seul chef politique de la résistance. On a convenu de se réunir à nouveau le 21 juin 1943 à Caluire, près de Lyon. Cette réunion organisée par Jean Moulin se transforme en guet-apens mortel. Des traîtres ont averti le SS Klaus Barbie et ses gros bras du SIPO SD. Ils arrêtent tous les participants et les emmènent à la prison de Fort-Montluc. Après des jours de torture, Jean Moulin meurt dans le train qui le menait en Allemagne, entre Metz et Francfort, le 8 juillet 1943.
Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent « signe-toi », mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon arme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière.
À l'été 43, malgré les drames, le projet de Gaulle est en plein essor. Sa voix pèse désormais, n'en déplaise à Churchill. Guillaume Piketty.
J'ajoute à cela que dans le même temps, c'est-à-dire ce temps qui voit de Gaulle émerger, difficilement par moment, mais émerger pour s'installer comme un chef de gouvernement provisoire, dans ce temps, Churchill voit son pouvoir à lui diminuer, pas tellement en Grande-Bretagne, mais sur la scène mondiale. C'est-à-dire que le Churchill champion du monde libre des années 1940-1941, a tout au long de l'année 1942 vu émerger deux autres champions sur la scène mondiale, infiniment plus puissants que lui. L'un s'appelle Staline et l'autre s'appelle ô combien Roosevelt.
Fin 43, les jours de l'Allemagne nazie sont comptés. Un débarquement se profile, préparé par les Américains et les Britanniques. De Gaulle, devenu le chef du gouvernement provisoire de la République française, est à Alger. Il est tenu à l'écart de ses préparatifs, mais il ne reste pas les bras croisés. Pour être sûr que les Français participent au débarquement, il a envoyé en Angleterre des troupes de la France combattante. Guillaume Piketty.
Cet homme était suffisamment intelligent, prévoyant et par moments visionnaire pour préparer un certain nombre de solutions, c'est-à-dire pour préparer un certain nombre de moyens qui lui permettraient, le cas échéant, le moment venu, de peser sur tel ou tel moment, tel ou tel événement, telle ou telle opération, dans le courant de la libération du territoire français. Malgré tout, faire en sorte que cette division blindée française, commandée par le général Leclerc, soit remarquablement entraînée, soit une division composite, c'est-à-dire comporte des Français libres de la première heure, mais également des hommes qui avaient rejoint un peu plus tard, soit commandée par un remarquable chef, soit transportée en Grande-Bretagne au printemps 1944, pour être prête, le moment venu.
L'opération Overlord, le débarquement en Normandie, a été conçue dans le dos de De Gaulle. S'il savait en quoi elle consistait, il ignorait les détails techniques et jusqu'à la date. La raison ? Washington et Londres se méfient des Français qui ne sauraient pas tenir leur langue. Le 4 juin, Churchill fait venir De Gaulle à Londres pour lui annoncer que le D-Day aura lieu 2 jours plus tard. Il lui dit aussi qu'un Américain, le général Eisenhower, doit parler à la radio le 6 juin. Dans son discours, rédigé à l'avance, il va enjoindre les Français à suivre les conseils des Américains. En l'apprenant, De Gaulle bouillonne. Il refuse de parler après le général américain. Le sang de Churchill ne fait qu'un tour. Il donne l'ordre d'expulser le Français à Alger, dans les fers si nécessaire. Il faut déployer des trésors de diplomatie pour que De Gaulle accepte de prendre la parole sur la BBC. C'est l'un de ses discours les plus vibrants.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France.
Grâce aux Alliés, la France et l'Europe sont délivrées des nazis. Le 11 novembre 1944, Charles de Gaulle et Winston Churchill jouent la comédie du bonheur. Le chef du gouvernement provisoire a fait du Prime Minister son invité d'honneur à Paris. Les reporters de France Libre Actualité sont là pour immortaliser cette journée.
11 novembre 1944. Pour la première fois depuis 5 ans, la France a le droit de regarder en face son ancienne victoire. Cérémonie inoubliable que nos alliés et amis anglais sont venus célébrer avec nous. Général de Gaulle et M. Winston Churchill s'inclinent devant la dalle où le soldat inconnu a monté pendant les 4 ans de notre humiliation, sa garde souterraine et vigilante. La foule parisienne est venue acclamer le premier Britannique, le chef de la grande nation qui a su dire non, qui a supporté l'orage les dents serrées et qui un jour, sûr de sa force, s'est dressé pour donner le signal des derniers coups de boutoir. Et maintenant, à l'hôtel de ville, où l'accompagnent Madame Churchill et M. Eden, M. Winston Churchill est fait citoyen d'honneur de Paris. Et lui apporte à la France une promotion plus haute et plus émouvante encore. La France est admise à la table des grandes puissances. Elle retrouve son rôle et son rang dans la guerre et dans la paix.
Mais ne nous y trompons pas, fin 1944, Churchill n'est toujours pas remis des audaces du français. Pour lui, c'est un ennemi mortel de l'Angleterre. De Gaulle, lui, sait qu'il doit beaucoup à Churchill. Le 12 novembre 1958, plus de 13 ans après la fin de la guerre, il remet à l'ancien Premier ministre britannique la Croix de la Libération.
C'est une page de la petite histoire que viennent de signer à l'hôtel Matignon Sir Winston Churchill et le général de Gaulle. En remettant à l'ancien Premier ministre de Grande-Bretagne la Croix de la Libération, l'ancien chef de la France libre a pu rappeler les heures tragiques où ils luttèrent ensemble. C'est à cette occasion que le chef du gouvernement français devait dire « Que Sir Winston sache ceci, la France sait ce qu'elle lui doit. »
Que doit au juste la France à l'Angleterre? Son retour dans le grand concert des nations? Guillaume Piketty.
Oui, officiellement, mais c'est totalement faux. Ben, officiellement, parce que la France fait partie des signataires des capitulations, du côté des vainqueurs cette fois-ci, que la France fait partie des 5 grands à l'ONU, que la France dispose encore de son empire, donc c'est absolument vrai, mais je crois quand même assez faux si l'on considère la réalité de la situation française, c'est-à-dire un pays qui sort des années de guerre éreinté économiquement, un territoire tout de même très abîmé, un pays dont les habitants ont conscience que certains d'entre eux se sont conduits de façon extraordinairement courageuse, mais qui savent aussi que d'autres se sont compromis avec le régime de Vichy et ou l'occupant. C'est la très très grande limite du discours gaullien. C'est-à-dire quand De Gaulle démarre avec son affaire de la grandeur et son discours de l'hôtel de ville, Paris libéré par son peuple, la France qui se bat, la France éternelle, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai bien sûr, mais c'est faux parce qu'il n'y aurait pas eu libération sans les alliés. Et derrière, la France ne cesse d'aller quémander.
Le 24 janvier 1965, Churchill meurt. Pour De Gaulle, à ce moment-là, les querelles, les rivalités, les incompréhensions sont oubliées, reste l'admiration. Il est et restera celui qui, en dirigeant jusqu'à la victoire l'admirable effort de guerre britannique, contribua puissamment au salut du peuple français et de la liberté du monde. Dans le grand drame, il fut le plus grand.
Un épisode écrit par Cyrielle Lemoine-Tolba, raconté par Cyril Azouvi et réalisé par Lucas Vibo. Dans le prochain et dernier épisode, Charles de Gaulle devra lutter pour la survie de la France libre face au géant américain Roosevelt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. À bientôt!